C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, c'est en train de devenir un des débats importants. On le voit avec l'avis qui a été présenté, la réaction du ministre François Bonnardel. On attend la réponse totale ou partielle de la ministre Laforêt. Alors, c'est toute la question de l'étalement urbain. Ce comité qui dit, dans le fond, protégeons les milieux naturels, faisons pas d'autoroute, c'est un moratoire. Est-ce que c'est réaliste ou c'est rêvé en couleur? Nathalie.
Ben en fait, les deux, lorsque les experts déclarent qu'il faudrait décréter un moratoire sur les projets autoroutiers, moi, je dis, sur les projets autoroutiers existants, oui, c'est rêvé en couleur parce qu'il y a des projets qui sont menés actuellement pour assurer la sécurité des usagers, pour permettre, par exemple, parce qu'il y a de la congestion, enfin, on veut donner un peu plus d'espace aux automobilistes. Parce que, par contre, lorsqu'il s'agit de décréter un moratoire sur les nouveaux projets, et là, on pense à quel projet? On pense au troisième lien. Là, ça devient un peu plus pertinent. Remarquez que moi, personnellement, je suis plutôt en faveur d'un autre lien entre Québec et Lévis, mais c'est quand même assez incroyable, pour ne pas dire scandaleux, que le gouvernement se lance dans une aventure comme celle-là sans avoir au préalable établi une étude d'opportunité. Ça, en soi, c'est un débat, mais enfin. Pour ce qui est de l'étalement urbain, c'est un débat important, Paul, et c'est comme si on était une espèce de croisée des chemins, parce que construire, plus on construit, plus on s'étale, plus c'est coûteux. Et dans le contexte de la lutte au changement climatique, c'est contre-productif. Alors, ce que les experts disent, c'est que on peut continuer de construire, mais évitons de s'étaler, puis faisons-le plus intelligemment, entre autres en protégeant les milieux naturels. Pourquoi? Parce que les milieux naturels, eux, contribuent à la captation du carbone qui nous aide à lutter contre les changements climatiques.
Luc? Oui, tout à fait. C'est pas juste une question environnementale. Je suis sûr, tu sais, les gens, ils pensent que c'est une question banlieue contre ville. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'écrivent tous les jours, là, des dizaines de personnes, au cumul, pas des dizaines par jour, mais au cumul des dizaines et des dizaines de personnes, qui habitent en banlieue, qui vivent en banlieue, puis qui disent, plus d'allure, ça plus d'allure, congestion le matin, les gens qui veulent défendre leur boisé, ils se sont installés en banlieue parce qu'il y avait un boisé à côté, parce qu'il était sur le bord de l'eau, parce que whatever, et ça, il y a des projets, des promoteurs qui arrivent, qui achètent à gros prix les terrains, alors les milieux humides, les boisés, l'accès aux rives, les bretelles d'autoroute complètement congestionnées, les centres d'achat qui se développent, parce que tu peux pas juste construire des maisons, à un moment donné, il faut que tu construises des commerces qui vont avec, et ça donne un modèle de développement, tout le monde le voit que tu peux pas continuer dans cette direction-là. Ça fait 50 ans qu'on a ce modèle de développement-là. Il est temps qu'on arrête, qu'on en trouve, qu'on en choisisse un autre.
Ben, en même temps, Luc, il faut dire que la démographie au Québec a augmenté. Puis les gens cherchaient une alternative souvent à la grande ville. Parce oui. que les endroits les plus problématiques, ce sont lesquels? C'est la communauté métropolitaine de Montréal et celle de Québec qui représentent les plus grands enjeux en termes d'étalement urbain. Parce que le calcul que font les scientifiques, et tu en as reçu en ton micro, Paul, un peu plus tôt, c'est de dire, plus on construit de routes et d'autoroutes en particulier, plus on invite les gens à quitter la ville et à s'établir en périphérie. Et c'est ça, effectivement, qui devient coûteux à la longue.
Puis aussi, c'est pas juste une question d'environnement, puis c'est pas juste une question de grande ville. On veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé en France, les gilets jaunes. Si des gens qui n'ont pas d'argent s'installer dans la région montréalaise ou québécoise ou sherbrookoise ou huloise, on décide de s'installer plus loin. C'est une solution temporaire. Tout à coup arrive le 2 $ d'essence pour le litre. 2 $.
Ouais, mais
après ça, il va peut-être passer à 2,50. Après ça, il va peut-être passer à 3 $. Et là, il va se passer ce que les gilets jaunes ont fait. Ils vont crier leur rage. Ils vont dire, wow, minute, ça marche plus. On veut plus de radars sur les autoroutes. On veut plus payer pour l'essence. On veut plus d'accès à des routes qui sont pas payées parce que là-bas, il y a des péages, etc. Les routes régionales qui sont qui sont complètement congestionnées. C'est pas une solution. La solution, faut qu'on la trouve dans un développement qui est à la fois, urbain et humain. Parce que, Bonnardel s'est mis le pied dans la bouche en disant...
Attends, je vais te laisser continuer parce que tu m'interpelles ce matin. Là.
Ouais, ouais, vas-y, Nathalie.
Ben, urbain et humain, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu entends par humain parce qu'il y a aussi la campagne, il y a aussi l'enjeu lié à l'occupation de notre territoire. Parce que c'est pas vrai que... Écoute, en 2066, il y aura 10 millions de Québécois. Où est-ce que tous ces... Le 3,6 millions de Québécois qui vont s'ajouter d'ici à 2066, ils vont se retrouver où? Ben, probablement qu'ils vont se retrouver davantage en ville ou en milieu métropolitain. Alors, comment on va accueillir tout ce beau monde-là?
Mais une chose est certaine, Nathalie, c'est qu'on ne va pas les accueillir dans les boisés qui nous restent. Hein? On veut pas raser des boisés, puis on veut pas utiliser des terres agricoles pour installer ces gens-là. Et les gens qui habitent proche de ces boisés-là veulent pas ça non plus. Là. Donc, faut trouver une solution. Urbain humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas faire ce que Bonnardel a dit hier. Bonnardel dit, vous avez le choix. Soit vous habitez dans un 12 étages sur le bord d'une autoroute, ou vous habitez dans une maison de banlieue avec une piscine. Non. Tout le Québec a été construit sur un modèle différent de ça. Les villages québécois sont plus denses que les banlieues québécoises. Les quartiers urbains québécois sont plus denses que les villages québécois. Il y a une gradation dans la densité et il y a des modèles de densité à échelle humaine. Là. T'en vas à Saint-Hyacinthe, là, les beaux squares qu'il y a là-bas avec les maisons autour, là, il y a ça un peu partout. Il y a ça à Sorel, il y a ça à Shawinigan, il y a ça à Québec. C'est un modèle de densité qui est humain, ça, qui est vivable, qui est agréable. Et en plus, lorsque tu habites proche les uns des autres, relativement proche, c'est-à-dire que t'as une cour quand même, t'as des arbres en avant, il faut de la verdure en masse. Mais là, t'as une densité de personnes qui permet d'avoir des commerces de coin de rue. Fait que tu peux marcher jusqu'au commerce de la coin de rue. Tandis que si tu éloignes les maisons les unes des autres, t'es obligé de prendre ta voiture.
Ouais, mais là, c'est toujours le modèle qu'on nous présente, Luc, parce que lorsque le ministre des Transports, François Bonnardel, a dit que c'est une mode, la densification, il s'est trompé de mot. En fait, c'est une solution qui a ses limites. Ben, c'est vrai que c'est une solution qui a ses limites. Tu as reçu le maire de Saint-Lin-Laurentide un peu plus tôt, là, à ton micro, mm-hmm. Paul, qui dit, nous, là, la population a explosé en 5 ans. Maintenant, on décrète un moratoire sur les nouvelles constructions. Pourquoi? Parce que la pression est telle sur la nappe phréatique que tantôt, on va se retrouver avec un problème d'accès à l'eau potable. Alors, tu vois, la croissance crée aussi des impacts de cette nature-là. Mais lorsque je lis dans le même article paru dans la presse concernant Saint-Lin, une dame qui part de Hochelaga-Maisonneuve pour aller s'établir à Saint-Lin, elle aime ça, elle a trouvé la tranquillité. C'est tout à fait légitime pour elle d'aspirer avec ses enfants et sa famille à un modèle, en fait, à une propriété qui répond davantage à ses besoins. T'sais, tu peux pas, Luc, ça peut pas être blanc, ça peut pas être noir. C'est 50 nuances de gris, cette affaire-là.
Il y a quand même un point qui est important, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible, par exemple, de Montréal, parce que tu veux t'acheter une maison puis que pour l'accès à la propriété, c'est ce qui correspond à ton budget, mais qui implique que tu fais la navette soir et matin, c'est une chose. Mais d'aller vivre ailleurs, puis de dire, moi, j'ai pas besoin de faire la navette.
Ça, c'est parfait.
Tu sais, je vais m'établir, puis on va être assez nombreux que, comme tu disais, il va avoir les services de base, puis il va... Tu sais, moi, je me souviens d'une époque, tu voulais voir un film... Fallait venir à Montréal. Mm-hmm. Là, t'as plus besoin. Je veux dire,
Parfait. Moi, d'ailleurs, je milite tout le temps pour dire, faut développer les petites villes de région. Arrêtons de développer Montréal. Tu sais, du pied carré au centre-ville, là, ça coûte trop cher pour continuer de développer ça. Mais par exemple, la même situation se trouve à Granby. Les gens déménagent pas. Les gens de Montréal qui déménagent à Granby ou qui déménagent à Rimouski, déménage pas dans la ville de Granby, il déménage dans la lointaine banlieue. Ils veulent être sur le bord du fleuve. Tant qu'à déménager, moi, je veux être sur le bord du fleuve. Je veux voir le fleuve. Mais la même situation va se reproduire. C'est que t'es obligé de prendre ta voiture pour aller au restaurant. Ben, si tu prends ta voiture pour aller au restaurant, le restaurant va avoir un grand stationnement autour. Puis après quoi, la boulangerie aussi va avoir un grand stationnement. Puis après ça, ça recommence à ressembler à un centre d'achat. Et là, tu réinventes la banlieue ailleurs. Ce qu'il faut, c'est réinventer la ville ailleurs. Une ville humaine, une ville avec beaucoup de verdure, avec des cours, avec des squares, avec des larges trottoirs, des arbres plantés sur rue, une école de quartier, etc. Ce modèle-là, les Québécois l'ont relativement abandonné depuis 50 ans. C'est ce modèle-là qu'il faut réinventer.
Ben, tu peux le faire à Montréal, Luc. L'exemple à suivre, c'est le Technopole Angus, où j'ai habité d'ailleurs. Il y a des terrains vacants, je pense, au potentiel que représente l'hippodrome, l'ancien hippodrome.
Très peu. Quand tu regardes le nombre de terrains vacants qui restent par rapport à la population qu'on doit accueillir,
Louvain-Est, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même des opportunités dont on peut s'inspirer, parce que c'est comme si tu condamnais Montréal à la fatalité, tu condamnais l'île de Montréal à la mort certaine.
Il reste un peu de développement à Montréal. Il en reste un peu, mais pas assez pour accueillir toute la population.
On s'arrête là-dessus. Au retour, l'école à 1, 2 ou 3 vitesses.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, hier, on a eu cette proposition concernant l'élimination de l'école à 3 vitesses qui suscite beaucoup de réactions. On a 3 vitesses au Québec. L'école publique de base, l'école publique avec des programme particulier et l'école privée subventionnée avec sélection des élèves moins maintenant, une certaine sélection, mais ça a déjà été plus sévère que ça. Luc, on veut t'entendre là-dessus.
Donc, le mouvement qui s'appelle École Ensemble, un mouvement très sérieux, un mouvement citoyen, mais très sérieux. Le président Claude Lessard était président du Conseil supérieur d'éducation quand et là, il a rejoint École Ensemble. Il y a aussi Stéphane Vigneault, travaille très fort là-dessus. Ils sont arrivés avec une proposition qui fait du sens. C'est pas, tu sais, on met fin à l'école privée du jour au lendemain. D'abord, faut dire que l'école privée au Québec, c'est une anomalie. Hein? C'est une anomalie quasiment à l'échelle du monde. En tout cas, par rapport au reste du Canada, c'est que d'habitude, tu as 5 % d'école privée, des enfants qui vont à l'école privée quelque part dans le monde. T'sais. Nous autres, c'est au privé, au secondaire, 20 % 23 % Et comme l'école publique a voulu réagir à ça en perdant ses bons étudiants, elle dit, nous autres, on va offrir des programmes spécialisés à hauteur à peu près aussi de 20 % Fait que t'as 40-45%, peut-être jusqu'à 50% des enfants au Québec qui sont dans des programmes où t'as besoin de performance pour accéder. Ça veut dire que dans les classes qui restent, t'as beaucoup, beaucoup de problèmes de sous-performance. Et donc, une charge de travail gigantesque, un climat qui est pas du tout propice à l'apprentissage des autres, surtout quand tu mets pas les ressources puis que le professeur se ramasse tout seul avec 5 cas difficiles dans sa classe minimum. Et ça fait que il y a tout un paquet d'affaires là. Il y a du décrochage, il y a de la sous-performance, il y a du décrochage de professeurs, il y a des gens qui prennent leur retraite anticipée, il y a de l'absentéisme, un méchant paquet d'affaires. Puis là, tu es obligé de rajouter des ressources en corollaire, des psychoéducateurs, des ergothérapeutes. Puis ça se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien dans les écoles québécoises, à part les écoles performantes. Et là, il faut mettre fin à ça. Il faut trouver une solution à ça. École Ensemble propose une solution.
Oui, effectivement, École Ensemble propose une solution. Moi, je pense qu'on est mieux pour une petite révolution tranquille dans le domaine de l'éducation, comme dans le domaine de la santé, puis on parlait d'étalement urbain puis d'aménagement du territoire. Là. Le Québec a une espèce de croisée des chemins. Lorsque le rapport, la commission Parrain a établi ses conclusions, puis qu'on a mis en place le ministère de l'Éducation au Québec, on a voulu une éducation pour tous, on a voulu créer un système égalitaire. Écoute, à l'époque, il y avait 50 % des enfants qui avaient quitté l'école avant l'âge de 15 ans. Si t'étais pas c'est sûr que tu n'allais pas à l'école. Si tu étais riche, là, tu avais une chance d'y aller. 60 ans plus tard, malheureusement, on a perdu de vue cette espèce d'égalité, de justice scolaire, parce que ce mouvement, il appelle une plus grande justice scolaire. Bien, il s'est effrité, parce qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, si tu vis dans un quartier défavorisé, tu vas probablement te contenter de l'école de ton quartier, qui est probablement moins bien pourvue en moyens qu'une école privée, par exemple, qui est établie dans un quartier favorisé. Alors oui, il faut rétablir cette espèce de rapport de force qui permettrait aux enfants, à tous les enfants du Québec, peu importe leur milieu, d'avoir accès à une éducation de qualité puis adaptée à leurs besoins. Cependant, cette révolution qu'ils proposent, c'est quand même pas rien, là. Ce qu'ils disent, c'est que les 270 écoles privées du Québec, ou à peu près, feraient partie de ce réseau commun et seraient financées 100% par l'État. Comme en Finlande. Moi, j'entends déjà les hauts cris, là. Des gens qui vont dire, ben, voyons donc, c'est comme au contraire, il ne faut pas financer les écoles privées. Et j'entends les gestionnaires des écoles privées de dire, ben, il n'y a pas question de faire confiance au gouvernement. Parce que ce que le mouvement école prétend, c'est que cette nouvelle façon de faire, c'est de dire, on va d'une façon niveler par le haut parce que l'accès à des moyens égaux ou presque pour tous va faire en sorte qu'on va être gagnant comme société de miser sur un système qui est moins inégalitaire, mais beaucoup plus égalitaire. D'ailleurs, ce mouvement s'inspire d'un avis publié par le Conseil supérieur de l'éducation qui, en 2016, ça aussi, c'est quand même tout un choc, là. Quand on lit cet avis qui a été publié par le Conseil supérieur de l'éducation qui a affirmé à l'époque que le système scolaire au Québec, primaire, secondaire, était le plus inégalitaire du Canada. Mmh. Imaginez. Quand je dis qu'on est mieux pour une révolution tranquille, c'est parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans notre réseau.
Puis cette révolution-là, la façon dont ils proposent de la faire, c'est justement en n'abolissant pas les écoles privées. C'est ça l'innovation par rapport aux autres. Comme en Finlande, ça s'est fait en 1972, donc on laisse les écoles privées en place, Mont-Saint-Louis, Collège Notre-Dame, Bourget, etc. Tu les laisses là, avec leur conseil d'administration puis tout ça, mais il n'y a plus de fonds publics. Les fonds publics sont les mêmes que... Mais par contre, attends, le fonds public...
Il n'y a plus de fonds privés, tu veux dire.
Oui, c'est-à-dire que le fonds public couvre 100 %. Là, pour l'instant, tu as 60 % qui est payé par l'État, puis les parents rajoutent un 40 %. Là, tu aurais 100 % payé par l'État, OK? Mais par contre, le 100 % de l'État, il est quand même moins élevé que le 60 % de l'État actuel plus le 40 % des parents, là. Donc, tu as une petite perte là, pour les écoles privées en termes de ressources. Mais avec le temps, il va y avoir un gain pour l'État parce qu'il ne mettra plus il y aura plus à financer le 60% à hauteur de 60% dans tous les collèges. Ils veulent réinvestir dans l'école publique. Et en bout de ligne, on dit qu'il y aurait des économies de 100 millions. Moi, j'ai des doutes là-dessus. J'ai des gros doutes.
Les fusions municipales devaient générer beaucoup d'économies.
Oui, c'est ça, oui.
Toujours ça. C'est ça. Puis quand tu as un chiffre de 100 millions, là, c'est comme zéro, ça, 100 millions en affaires publiques. Là. Moi, au contraire, je pense que ça prend 1, 2, 3 milliards d'investissements de l'État. Là. Regarde, les milliards, là, on en a mis dans les maisons des aînés.
Mais là,
on en a mis.
Brébeuf va devenir une école de quartier.
Non, Brébeuf, ben, pourrait faire le choix de dire oui, c'est ça. C'est une école de quartier. Puis là, t'es obligé d'accueillir les étudiants qui viennent autour de Brébeuf.
De Côte-des-Neiges.
Côte-des-Neiges, voilà, c'est ça. Si Brébeuf veut pas...
Pensez-vous vraiment que ça va arriver?
Non, attends, mais si Brébeuf ne veut pas, Brébeuf peut dire, moi, je reste une école privée. Mais à ce moment-là, c'est 100% financé par les parents.
Ça veut dire que ça coûte 10, 12, 15 000 aux parents.
Voilà, et c'est comme ça.
Ah, ben, c'est déjà le cas. Il y a des parents qui payent une fortune pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées au Québec.
Ben, dans les écoles privées du monde entier, les parents payent pour l'école privée, c'est-à-dire payent la totalité des frais. Juste au Québec, on a dit que l'État va payer 60%. Et c'est pour ça, parce que c'est devenu bon marché, qu'il y a énormément de monde qui y va. Mais c'est ça qu'il faut casser.
Ben en fait, c'est ça qu'il faut casser, parce que les constats, là, rappelez-vous, Grégory Schall fait une sortie il y a deux semaines pour questionner les méthodes d'enseignement. On sait que 54% de nos écoles publiques au Québec sont dans un état questionnable. On a créé, entre autres, les lab-écoles. Ben, regardez où on construit les lab-écoles, pas dans les quartiers les plus défavorisés, là. Et l'autre chose, on dit, ce mouvement dit aujourd'hui, ben, il faut avoir des valeurs qui vont permettre au plus grand nombre, à tous les petits Québécois, d'avoir accès à une école qui répond à leurs besoins. Fait que je pense qu'on commence à avoir un portrait qui confirme que le modèle actuel ne peut pas perdurer, parce que ça fait un certain temps qu'on s'en va dans le mur, là. Le décrochage scolaire des garçons, qu'on n'arrive pas à mater. D'ailleurs, ça fait combien d'années qu'on parle du décrochage scolaire chez les garçons? 10 ans,
j'ai commencé
ans,
l'émission du matin en 90, c'était déjà un sujet principal.
Ah ouais,
bon, imagine, on est en 2022, puis c'est, je sais pas, c'est comme le mystère de la caramel, cette affaire-là. On n'a pas encore trouvé les solutions.
Ouais, une des innovations, c'est les programmes spécialisés, les parcours, tu sais, sport-études, etc. Et justement, École Ensemble propose de maintenir ça. C'est-à-dire que non seulement on le garde dans les écoles privées, mais on le met aussi dans les écoles publiques. Ça marche très, très, très bien, en particulier pour les garçons, les équipes de football, de hockey, etc. Mais ça marche aussi pour tout le monde, ça marche pour les filles. Il y a beaucoup de belles équipes sportives. Juste vous dire que moi, je suis en train de magasiner l'école privée pour mon fils. Parce que je suis allé à l'école privée. Puis,
et pourquoi une école privée pour ton fils?
Je te raconte ça, Nathalie. Quand je suis allé à l'école privée, là, pour moi, je me battais tout le temps à l'école primaire. J'étais dans une école de bombe. Puis quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai senti à la fois de la gentillesse, de la sollicitude, du souci pour les gens. Tu sais, à un moment donné, j'étais en train de monter ces tables, moi, pour dépasser un groupe d'étudiants qui attendaient en ligne. Le professeur me parle, il dit, hey, non, si on fait pas ça, on monte pas ces tables. J'ai dit, mais coudonc, c'est vrai. J'étais en train de monter ces tables, moi, là. Je m'en suis rendu compte, t'as juste pas le droit de faire ça. Mets-toi en rang, puis il y a pas de bataille, puis ici, puis ça. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé et encadré. Et je vis ça pour mon gars. Mais la solution de École Ensemble me semble fantastique, c'est-à-dire essayons de reproduire ça dans les écoles publiques.
Mais ce que tu dis là, c'est pas juste un transfert d'élèves puis un transfert de financement. Il faut retrouver dans ces écoles-là ce que des parents vont chercher à l'école privée.
Exactement. La sollicitude, l'encadrement, la motivation, la stimulation. Mais il me semble que c'est le projet qu'on devrait embrasser.
Oui, mais en même temps, évitons là, des raccourcis. C'est-à-dire que c'est pas vrai que de toutes les écoles publiques au Québec là, n'offrent pas un environnement
intéressant
pour les enfants.
Oui, bien sûr. Merci de le préciser, Nathalie.
Oui,
merci.
Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, je pense à nos jeunes à Montréal-Nord, là, tous les problèmes qu'on a dans ce quartier-là en particulier. Là. C'est sûr que si tu changes pas le modèle de l'école, ces jeunes-là qui vont être condamnés à la délinquance pour une partie pour le reste de leur vie. C'est ça qui est
absolument,
triste, en fait.
Absolument.
Il faut vraiment aller toucher là où les besoins sont les plus criants. Mais c'est tout ça, c'est beau en papier, là. Mais mon Dieu, je nous souhaite bonne chance parce qu'on va en avoir besoin pour la suite des choses.
Ben, bonne chance. On se retrouve demain.
C'est 23.